Europe Matin.
Fanny Marceau.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. On est avec vous jusqu'à 6h30 pour vous réveiller bien informés. Et avec la pêche, vous allez la dévorer cette journée. Worth It a chanté devant le miroir ce matin, tu en vaux la peine, même si tu penses le contraire. Amber Mark pour démarrer la journée du bon pied et avec une bonne dose d'estime de soi. Dans l'actualité de ce vendredi 6 mai, peur sur nos estomacs. Entre les pizzas, les chérichiacolis, les chocolats, la salmonelle et la viande avariée, l'agroalimentaire traverse une zone de turbulence qui inquiète les consommateurs. Après les Fresh Up retirés de la vente, deux nouvelles gammes de pizzas surgelées Buitoni font l'objet de plaintes. Hasard de calendrier, c'est aussi hier que s'est ouvert le procès de Castelviande à Nantes. L'abattoir est accusé depuis 2008 d'avoir fait ce qu'on appelle de la remballe, c'est-à-dire vendre à des restaurants et des magasins de la viande avariée. Avec tout ça, faut-il changer nos habitudes alimentaires? Faut-il changer ou renforcer les systèmes de contrôle? Comment manger en sécurité? On en parle avec un expert de la consommation. Rodolphe Bonas sera l'invité de 6h10. À 5h45, le grand retour du MMA international à Paris. Ce soir, l'Accor Arena accueille la soirée Bellator. Une dizaine de combattants vont s'affronter, mais l'affiche, c'est Congo Bader. À ma droite, Cheikh Congo, 46 ans, pionnier du MMA français, champion de la discipline. À ma gauche, Ryan Bader, 38 ans, américain, champion du monde des poids lourds. Cheikh Congo sera notre invité ce matin. Enfin, la partition d'Omblin, elle est-elle une des choristes de Michael Jackson dans les années 80 ? Force de persévérance, Sheryl Crow connaît une ascension fulgurante et grâce à une musique qui mélange rock, pop et country. Vous avez l'essentiel du programme. On va d'abord prendre des nouvelles du temps. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Est-ce que, s'approchant du week-end, le temps s'améliore? Faites-nous rêver.
Eh bien oui, oui, ça va aller mieux. C'est hier que nous avons vécu la pire journée. Aujourd'hui, nous aurons plus de soleil et moins d'orages. Alors attention, ça va mieux. Mais doucement, on va y aller doucement, mais oui, sûrement vers l'amélioration. Donc ce matin, soyez bruyants, soyez prudents.
Mais soyez brillants aussi.
Soyez bruyants aussi. Soyez prudents sur les routes, on a beaucoup de brouillard. Des brouillards le long des côtes de la Manche, sur la Normandie, la Bretagne, jusque sur les Hauts-de-France. Ça peut être compliqué sur les routes. Sur le nord de la Bretagne, les nuages seront tenaces. Hein. On va avoir ces brouillards qui vont rester toute la journée. Puis dans l'après-midi, le ciel sera partagé partout entre nuages et éclaircies, sauf dans le sud. Alors c'est vrai que dans le sud c'est encore compliqué, au bord de la Méditerranée, notamment dans le sud-est c'est compliqué, et puis en Corse on a toujours une matinée très pluvieuse. Alors les températures, là aussi ça va un peu mieux, on a 4 à 15 degrés ce matin du nord au sud, et cet après-midi ce sera plus homogène avec 16 à 25 degrés. Les températures vont continuer à augmenter jusqu'à dimanche, et à partir de lundi on va rentrer dans une vague de chaleur, j'aurai l'occasion de vous en reparler.
Avec plaisir, merci beaucoup Anissa, à tout à l'heure. Très bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5 heures. Le PS dit oui à l'Union populaire derrière Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes ont voté pour hier soir au terme de 4 heures de débat houleux, nous y étions. Le scandale Buitoni continue. Deux nouvelles gammes de pizzas suspectées de contenir la bactérie Escherichia coli à l'origine d'une cinquantaine de contaminations qui ont parfois tourné au drame. Et puis il voulait aller droit au but. La réalité s'est révélée tout autre. Marseille éliminée par le Feyenoord Rotterdam aux portes de la finale de Ligue Europa Conférence. Résultat 0 partout. Un échec difficile à digérer.
Europe Matin,
Fanny Marceau.
Et le journal, c'est avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Paris réussi pour Jean-Luc Mélenchon, rallier toute la gauche derrière lui pour l'Union populaire aux législatives. Le Conseil national du PS a adopté au terme de 4 heures de débat animé hier soir l'accord avec la France insoumise, le Parti communiste et les Verts. Victor Chabert était sur place au siège du PS à Ivry pour Europe 1.
Nous nous sommes beaucoup manqués. Maintenant, je l'espère, nous allons nous retrouver. Merci.
Olivier Faure savoure, il est presque 1h du matin. Après plusieurs recomptages, le résultat est limpide. Plus de 62% des voix pour l'accord. Dans la soirée, les débats ont parfois été houleux. Certains intervenants tenant à marquer leur profond désaccord avec la ligne de Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe, le financement du programme ou encore sur le peu de circonscriptions obtenues par le PS dans l'accord. Mais les échanges sont cordiaux et les négociateurs déminent. Beaucoup en sont persuadés dans sa position. Le PS sort renforcé du compromis trouvé avec LFI. À la sortie, les cadres assurent que c'est un moment historique. Les socialistes clarifient leur position, redeviennent partie prenante de la gauche. Mais quelques opposants, comme François Calfon, ne cachent pas leur colère.
Comme on dit dans un dicton populaire, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Eh bien, à la fin de la foire, c'est le 19 juin prochain, nous verrons combien de députés nous gagnerons. Moi, j'ai de grands doutes.
Et les premières dissidences apparaissent déjà à la même heure à Montpellier. Le maire PS de la ville, accompagné de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, vont debout contre l'accord lancer la campagne de leur propre candidate hors union.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1.
Un appel à la prudence ce matin. Si vous avez acheté les pizzas Buitoni des gammes Bella Napoli et Four à Pierre.
Peut-être vaut-il mieux les jeter hein, après la gamme Fresh Up qui a causé la mort de 2 enfants et la contamination d'une 50aine de personnes à la bactérie Escherichia coli. Des témoignages incriminent à nouveau la marque et les 2 gammes que vous avez citées, Fanny, Bella Napoli et Four à Pierre. Explication de Guillaume Dominguez.
Premier témoignage, celui d'une mère de famille de 34 ans. Elle affirme avoir mangé en mars dernier une pizza surgelée Buitoni de la gamme Bella Napoli. Le soir même, selon ses dires, elle a été hospitalisée pour 1 semaine contaminée par la bactérie Escherichia coli. Pour les médecins, la pizza pourrait être à l'origine de l'intoxication. Ce mercredi, son avocat a déposé plainte pour blessures involontaires contre la marque du groupe Nestlé. Second témoignage, hier, une autre mère de famille a annoncé vouloir déposer plainte à son tour. Selon elle, sa petite-fille de 7 ans a aussi été hospitalisée après avoir mangé une pizza Buitoni, mais cette fois-ci de la gamme Four à Pierre. Là encore, le lien entre l'intoxication et la pizza serait plus que probable, selon maître Richard Legrand, avocat de la famille.
Il y a quand même eu une prise de contact de la marque auprès de ma cliente pour obtenir certaines informations, notamment d'un point de vue médical. Et puis bon, après, voilà, on a quand même des symptômes développés après la consommation de ce produit. La bactérie correspond à l'affaire. Il y a quand même pas mal d'éléments qui corroborent.
Et selon Maître Legrand, il est possible que la pizza Four à Pierre ait été produite dans l'usine de Caudry dans le nord de la France avant sa fermeture en avril. Usine qui a produit la gamme de pizza Fresh Up.
Et ce matin, Marie Stretton de la CGT Agroalimentaire le confirme. La gamme Bella Napoli est bien produite comme les Fresh Up uniquement sur le site de Caudry.
5h04 sur Europe 1, multiplication d'aides occidentales pour l'Ukraine. La France débloque 2 milliards de dollars.
Contre 1 milliard 700 millions jusqu'à présent, la Commission européenne signe de son côté un chèque de 200 millions d'euros pour les déplacés intérieurs. En tout, plus de 6 milliards de dons ont été réunis hier au cours d'une conférence de donateurs à Varsovie en Pologne.
Et c'est dans ce contexte que sur Twitter, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lance une cagnotte mondiale pour aider Kiev à gagner la guerre contre la Russie et redévelopper les infrastructures du pays.
Sur cette plateforme, en un clic, vous pouvez donner des fonds pour protéger nos défenseurs, sauver nos civils et reconstruire l'Ukraine. Tous les fonds seront transférés à la Banque nationale d'Ukraine et alloués aux ministères concernés. Donner pour protéger, donner pour sauver, donner pour reconstruire. Nous nous souviendrons toujours de votre contribution pour la victoire de l'Ukraine, pour la victoire de la liberté. Merci.
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et pour faire un don, ça se passe sur le site internet u24.gov.ua. À Mariupol, le cessez-le-feu annoncé par Moscou tout autour de l'aciérie Azovstal n'est pas respecté selon l'Ukraine, ce qui ne permet pas de mettre en place des couloirs humanitaires pour les civils. Il en reste 200 sur le site selon le maire de Mariupol. Un nouveau convoi des Nations Unies doit arriver dans la matinée pour les évacuer.
Une histoire qui aurait pu virer au drame, celle d'un faux médecin de 21 ans qui pendant plusieurs semaines a enfilé la blouse blanche.
Sans aucune formation médicale, il a usurpé les numéros de 2 professionnels de santé. Puis s'est inscrit sur une plateforme de consultation en ligne sur laquelle il a prescrit ordonnance et arrêt de travail. Jugé à Lyon, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui. Le récit de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
C'est en août 2020 que le jeune homme parvient à s'inscrire comme médecin sur la plateforme maquestionmedicale.fr, un site très sérieux qui permet des consultations en ligne auprès de professionnels de santé. Le garçon n'a pourtant aucune formation médicale, il a même été déscolarisé en troisième et suit depuis des cours par correspondance pour obtenir son bac. En fait, il est parvenu à récupérer les données de deux praticiens, explique Jean Tafazoli, médecin et créateur de la plateforme.
Il a usurpé des numéros qu'on peut trouver sur certaines ordonnances, numéros qui identifient un professionnel de santé. Ça lui a permis de passer le premier barrage, ça lui a pas permis de passer les deuxième et troisième barrages. Et dès qu'on a eu les premiers retours des premiers patients, on a pu se dire, bon, il y a un problème, on isole ce compte, on le laisse faire quelques prescriptions pour avoir des preuves, mais derrière, on bloque son compte.
En seulement 10 jours, le faux médecin a tout de même assuré 132 consultations, le plus souvent par téléphone, depuis chez ses parents. Il a également délivré 37 ordonnances ou arrêts de travail, prescrivant essentiellement du doliprane, parfois des anxiolytiques. Devant les enquêteurs, le jeune homme a assuré qu'il voulait aider les gens en pleine période de Covid. Ses proches l'ont décrit comme obsédé par la médecine et fragile psychologiquement. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, plus une obligation de soins, bien réelle celle-là. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
À 5h07 du foot, pouf, envolé le rêve de l'OM. Marseille tombe aux portes de la finale de la Ligue Europa Conférence.
Rage, amertume de l'OM qui devait gagner hier soir au stade Vélodrome contre le Feyenoord Rotterdam. Mais malgré une ambiance de feu en tribune, la rencontre a terminé sur un nul, 0 partout. Marseille éliminé au terme d'un match et d'une journée tendue jusqu'au bout, Jean-François Pérez.
Avec autant d'électricité sur la pelouse et autour du stade Vélodrome, ce n'était pas le soir pour éteindre la lumière. Et pourtant, l'OM a failli. Jamais les Marseillais n'ont donné le sentiment de pouvoir renverser le destin. Trop peu de tirs, un manque criant de qualité dans le jeu après la sortie sur blessure du capitaine Dimitri Payet. Cette élimination est tout sauf un scandale. Même si la déception est grande, reconnaît le milieu de terrain Valentin Rongier sur Canal+.
On est très très frustrés pour nous, pour le club, pour nos supporters. On avait vraiment envie d'aller jouer cette finale. Et puis maintenant, il faut vite qu'on relève la tête parce qu'il nous reste 3 matchs pour un autre objectif qui est lui aussi très très important.
Cet objectif, c'est la 2e place du championnat, qualificative pour la Ligue des Champions. L'OM possède 3 points d'avance sur Rennes à 3 journées de la fin. Mais avec une telle usure morale et physique, comme on a pu le voir hier soir, cette avance pourrait bien fondre dès dimanche à Lorient. Un rendez-vous banal en apparence qui ressemble désormais à une finale, celle que les Marseillais rêvaient d'offrir à leurs supporters.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. 4 supporters ont été interpellés en marge du match. 3 Néerlandais, 1 Marseillais.
On reste à Marseille justement. Le Mistral ferme.
Même si on ne regarde pas cette série,
on connaît le générique.
On connaît le générique. Plus belle la vie, série emblématique des soirées de France 3 depuis 18 ans maintenant. France Télévisions a officiellement annoncé hier son arrêt en novembre après plus de 4500 épisodes. Plus belle la vie, c'est la série française quotidienne la plus longue de l'histoire. Mais le service public s'engage tout de même à lancer de nouvelles productions dans les mêmes studios pour un montant de 30 millions d'euros par an. C'est le budget de la série.
Merci beaucoup, Alban Le Prince, pour le journal. Place aux courses à 5h09 sur Europe 1. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 104 Elliott de K.O. Oubliez sa dernière course le 27 avril à Châteaubriant qui avait uniquement pour mission de peaufiner sa condition physique en vue de cet objectif. Et il est vrai qu'il ne peut rêver ce soir meilleure condition de course sur un parcours de vitesse qui lui convient à merveille et comme il a hérité d'une position idéale en première ligne derrière l'autostart, il peut être considéré comme un coup sûr absolu à l'arrivée. Notez bien pour Vincennes, réunion 1. Dans la première course, le numéro 4, Elliott de K.O.
Merci Thierry, vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une demi-heure. Et dans un instant, ne bougez pas, c'est l'heure du pressing.
Europe 1.
Fanny Marceau.
Il est 5h11, place au pressing. Johan Tritz nous a rejoint. Bonjour Johan.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux. À la une de l'Humanité, la santé livrée aux vautours. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Ils s'inquiètent de la financiarisation du secteur de la santé alors qu'un fonds d'investissement américain mène une OPA sur les cliniques françaises. Une question pour l'opinion ce matin. Emmanuel Macron a-t-il tué le job de Premier ministre ? Le président de la République ne va désigner le successeur de Jean Castex que le 13 mai prochain. Jusqu'à la dernière minute, le locataire de Matignon va gérer les affaires courantes, le temps qu'Emmanuel Macron prenne une décision. Et puis plus que deux mois avant la fin du contrat de Mbappé au PSG, que va faire l'attaquant star du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Les discussions entre le club et la famille Mbappé s'intensifient. Selon le Parisien, c'est bien parti pour durer. Il devrait rester au Paris Saint-Germain. Voilà pour les unes. Johan, quels articles ont retenu votre attention ce matin ?
Alors, c'est une histoire qui se termine bien, qui m'a interpellé aujourd'hui, Fanny. Dans le sud de la France, à Cannes, un homme d'une trentaine d'années part se baigner, même si l'eau ne doit pas encore être très très chaude. Rien de surprenant jusque-là, sa famille, elle, reste sur la plage. Il se passe de longues minutes, mais après un long moment, le baigneur est introuvable. Oula. Ses proches alertent immédiatement les secours. Police, pompiers, police municipale, sauveteurs en mer sont dépêchés pour le retrouver. Un lourd dispositif fouille la mer et les environs. Un hélicoptère s'envole même pour survoler la zone. Plusieurs heures de recherche, toujours rien, quand finalement, le nageur réapparaît hors de l'eau, dans une boulangerie près de son domicile à Cannes. Hein ? On ne sait pas dans quel état il était, ni l'histoire entre sa baignade et sa réapparition. Bah oui. C'est encore un mystère, mais il n'a même pas été pris en charge par les secours. C'est donc que tout allait relativement bien. Grand mystère donc que Nice Matin n'a pas encore résolu, mais ne vous inquiétez pas, on va suivre ce sujet de près.
Bon, bah, très bonne nouvelle finalement, même s'il y a encore plein de questions. Il y a encore plus surprenant comme réapparition ce matin.
Oui, avec cette fois-ci une histoire qui est au Pérou, et qui fait froid dans le dos d'ailleurs. Je vais vous la raconter. Alors qu'une femme de 36 ans est enterrée dans un cimetière dans une ville de ce pays d'Amérique du Sud, ses proches présents à la cérémonie entendent du bruit dans le cercueil. Ouh. Et de plus en plus fort. On frappe même sur les parois en bois. Immédiatement, le cercueil est ouvert. La personne normalement décédée est bien vivante. Elle avait les yeux ouverts et transpirait, raconte le gardien du cimetière dans le Daily Mail. Oui, très très chaud. Oui. Et surtout qu'elle devait y être depuis un petit moment.
Bah, oui.
Les secours, encore une fois, sont appelés et la femme est transportée en urgence à l'hôpital. D'abord critique, son état de santé s'est ensuite lentement amélioré avant, malheureusement, de se détériorer rapidement. Et quelques heures plus tard, cette femme est cette fois-ci déclarée morte pour de bon.
On est sûr, là ?
On est sûr. Aujourd'hui, sa famille cherche à comprendre. Nous voulons savoir pourquoi ma nièce a réagi quand nous apprêtions à l'enterrer. Nous avons les vidéos dans lesquelles elle pousse et touche son cercueil. C'est glaçant, raconte sa tante. La défunte avait été victime d'un accident de la route ayant coûté aussi la vie à son beau-frère et blessé grièvement ses neveux. Une enquête a été ouverte pour savoir s'il y a eu négligence de la part du corps médical qui aurait pu, selon les informations, confondre un décès et un coma profond.
C'est très, très, très inquiétant. Merci beaucoup, Johan. Je vais conclure ce pressing avec quelque chose de bien moins glauque. Mais bien loin d'ici, à Tokyo, au Japon, là-bas, il y a deux tours aux faciès bien particuliers. Leur nom, les Nakagin Capsule Tower. Oui, alors on pourrait effectivement les imaginer en forme de canette avec un nom pareil. Mais elles ont plutôt un air de Rubik's Cube sans couleur. Ce sont en réalité 140 parallélépipèdes rectangles gris de 10 mètres carrés chacun, emboîtés les uns dans les autres. L'une des tours fait 11 étages, l'autre 13. Elles ont une tête bien particulière. Alors elles sont nées en 1970 à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka. Leur architecte Kisho Kurokawa les a conçues comme des appartements modulables aux pièces préfabriquées et à assembler en fonction des besoins. C'est ce que précise Libération qui publie cet article ce matin. Petits espaces tout confort avec magnétophone à bande, téléviseur couleur et climatiseur. À l'époque, c'est un peu le logement du futur. Mais voilà, le temps est passé et l'iconique complexe du futur au cœur d'un quartier de luxe et de fête est devenu obsolète et délabré. Les copropriétaires n'ont pas pu entretenir leur cube. Il devait être renouvelé normalement tous les 25 ans pour que l'édifice tienne plusieurs siècles. Mais ils ne sont jamais parvenus à organiser le calendrier des rénovations et à mobiliser les fonds nécessaires. D'autant qu'on a fini par y trouver de l'amiante en grande quantité et qu'elles ne sont pas aux normes antisismiques, alors que le Japon est une terre de séisme, on le sait. Bref, ces tours visionnaires, historiques même pour Tokyo, sont devenues tout simplement bonnes à jeter. Mince. Il y a bien eu plusieurs tentatives de sauvetage, mais entre la crise financière de 2008 et la crise Covid de 2020, le projet est finalement resté dans les cartons. Alors voilà, elles seront bientôt totalement démantelées aux grandes dames de leurs propriétaires, qui sont souvent des artistes, des passionnés d'architecture, des femmes surtout.
Et Fanny, il y a un truc que je ne comprends pas, si les bâtiments sont si iconiques, pourquoi est-ce qu'on ne les rénove pas, en fait, tout simplement ?
Mais parce que ce sont des habitations privées, pas publiques, et que donc il n'est pas question au Japon d'investir de l'argent public là-dedans. Et puis les règles antisismiques prévalent à Tokyo, alors on détruit tout ce qui pourrait se casser la figure à la moindre secousse. C'est le moment où on peut quand même être assez fier de notre loto du patrimoine. Clin d'œil appuyé à Stéphane Bern qui le coordonne. Loto qui permet permet de rénover des sites qui ont une valeur historique. À Tokyo, on ne s'embarrasse pas de sentimentalisme. Les propriétaires de Nakagin Capsule Tower espèrent désamianter et rénover certains de leurs cubes pour ensuite les donner à des musées ou faire des hébergements temporaires. Et surtout, ils espèrent que le Centre Pompidou à Paris voudra bien en accueillir au moins un. Et oui, chez nous, la France, terre d'asile, visiblement des architectures perdues. À Tokyo, l'emblème du métabolisme décapsulé, c'est à lire dans Libération ce matin. Merci, Yoann.
Ça me donne envie de boire un coup.
Ah ben voilà.
À la vôtre.
Europe Matin. Fanny Marceau.
Il est 5h16, le premier journal permanent de ce matin, c'est avec Alban Le Prince.
Objectif atteint pour Jean-Luc Mélenchon, unir la gauche sous la bannière de l'Union Populaire. Le PS a adopté en Conseil National l'accord avec les Insoumis, les Verts et les Communistes à 62% hier soir, après 4 heures de débats parfois houleux. La majorité change de nom pour les législatives. La République En Marche devient Renaissance et annonce une première vague de 187 investitures. Parmi elles, Elisabeth Borne dans le Calvados, Jean-Michel Blanquer dans le Loiret et Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine. 4 personnes recherchées ce matin, dont une armée d'un fusil d'assaut après l'impressionnant braquage d'une boutique Chanel près de la place Vendôme hier à Paris. Le montant du butin n'est toujours pas connu. Ce matin, une enquête est ouverte pour vol à main armée. Et puis SOS Amitié recherche bénévole. La ligne de prévention du suicide manque de candidats à l'écoute. Conséquence, 4 appels sur 5 restent malheureusement sans réponse et même 6 sur 7 la nuit.
Europe 1.
Il est 5h18, Initiative en France, le rendez-vous des bonnes idées.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère.
Il va faire beau dans les jours qui viennent. Alors on ne met pas encore tout à fait les pieds dans l'eau ces jours-ci, mais ça devrait aller mieux la semaine prochaine. En toute saison, en tout cas, on peut se promener sur la plage. Direction ce matin, le littoral breton avec Sophie Houbard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice du projet Bernic & Click. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Eh bien, c'est une application mobile pour smartphone, ludique et pédagogique, pour observer et reconnaître 130 espèces du bord de mer en Bretagne.
130 espèces, alors que des animaux ou aussi des plantes, des choses comme ça ?
Alors, des espèces marines, végétales et animales. Donc, il y a effectivement des algues ou des animaux.
Mmh, des crabes, des moules.
Voilà, des moules, des crevettes, etc. En tout cas, on a choisi des espèces qui sont facilement observables sur l'estran, là, la zone qui est de balancement des marées. Et on a choisi des espèces assez diversifiées pour montrer tout ce qu'on peut voir très fréquemment sur le littoral breton.
Et comment ça fonctionne alors ?
Alors, c'est une application qui est gratuite et écologique hein, grâce à son mode d'utilisation en mode hors ligne. Donc, en fait, il suffit de télécharger l'application sur le site internet bernic.bzh. Et une fois que vous l'avez téléchargée, vous pouvez l'utiliser comme ça facilement sur la plage. Après, donc, vous rencontrez une espèce. Alors, soit vous la connaissez et vous allez directement dans l'onglet espèces pour accéder à sa fiche. Soit vous ne connaissez pas l'espèce et vous allez dans l'onglet « Identification ». Et à ce moment-là, vous allez avoir un certain nombre de questions-réponses qui vont vous permettre d'arriver jusqu'à la fiche pour en savoir plus. Donc, des questions qui vont être, alors, est-ce que c'est un animal, un végétal, le nombre de pattes, la forme de la coquille, etc. Donc, on vous fait un peu réfléchir, observer jusqu'à arriver à la fameuse fiche.
C'est un petit jeu d'enquête, finalement.
C'est un petit jeu d'enquête. Et une fois qu'on est sur la fiche, eh bien, on a des informations sur l'habitat, la durée de vie, la taille de l'animal. On va en savoir plus, une description de voilà, son mode de reproduction, qu'est-ce qu'il mange. Et puis, on aura des fiches anecdotes qui vont nous raconter des choses extraordinaires. Par exemple, sur la bernique, appelée aussi Patel, l'emblème de notre bernic antique. Eh bien, on peut apprendre que sa langue est composée de dents qui sont le matériau le plus résistant au monde.
Wow.
Voilà, c'est un exemple d'anecdote. On a aussi un onglet qui nous permet de voir quelles sont les espèces proches et puis d'aller vers d'autres applications qui sont un peu plus approfondies, comme Doris, ou d'aller vers des programmes de sciences participatives pour agir, pour être citoyen et participer, par exemple, à la connaissance des algues à travers le protocole Tous à la mer ou aux plages vivantes.
Donc en fait, on élargit systématiquement sa culture générale en allant à la plage avec Bernie Canclic.
Voilà.
Et ça s'adresse aux curieux de tous les âges.
Alors, c'est vraiment adapté au grand public, petits et grands. On a utilisé l'univers du jeu vidéo aussi pour la rendre très ludique. Donc, il y a un système de récompenses. Donc, suivant le nombre d'espèces qu'on a reconnues, eh bien, on peut être un petit flâneur, une petite bernique ou un explorateur. Et puis, si on a trouvé les 130 espèces, on peut même devenir un grand sage. On peut gagner aussi des photos collecteurs. Et puis, on peut se faire sa collection dans son téléphone. Donc, on sait ce qu'on a pu voir et y revenir plus tard chez soi si on a envie d'en savoir plus.
Et ça ne fonctionne que sur le littoral breton, que pour le littoral breton ?
Ah oui, ça a été vraiment fait par une équipe de la commission littorale de notre réseau régional breton. Ouais, donc c'est vraiment une application dédiée au littoral, même si breton, même si on retrouve des espèces, voilà, le crabe vert, on peut en trouver d'autres, bien sûr, sur d'autres littoraux, mais c'est vrai qu'elle a été vraiment pensée pour la Bretagne. Peut-être qu'il y aura d'autres.
Oui.
Il n'existait pas d'application similaire, donc peut-être qu'elle fera des petits.
Peut-être qu'elle inspirera d'autres régions littorales de France ou des Outre-mer. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter ce projet ?
Bah, justement, lors d'une formation avec des éducateurs à l'environnement, certains disaient, on a des applis sur les plantes, sur les oiseaux, etc., mais il nous manque quelque chose sur l'estran. Et puis une application qui soit pédagogique, où il y a vraiment cette idée d'observation, de reconnaissance, d'identification. Donc voilà, c'est un projet qui a démarré en 2019. Il y a une équipe de 10 personnes qui ont travaillé pour rendre cela concret depuis janvier. Et on est déjà à plus de 15 000 usagers de l'application depuis fin janvier. Donc on est très contents, l'appli rencontre son public.
15 000 personnes, essentiellement des Bretons, mais aussi j'imagine quelques vacanciers.
Oui. Et puis voilà, c'est le début. Bientôt, il y a quelques vacanciers. Alors... je pense qu'avec les grandes vacances, on va encore avoir d'autres personnes. J'insiste aussi sur l'aspect éthique, c'est-à-dire que comme on est un réseau d'éducation à l'environnement, on a voulu mettre des messages de sensibilisation à la fragilité aussi des écosystèmes. Mmh. Donc, on rappelle l'importance de, voilà, quand on retourne un rocher, de le remettre en place, etc. Voilà, des messages qui renvoie à d'autres sites sur la réglementation de la pêche à pied si on a envie de manger sa découverte.
Par exemple. Vous avez d'autres projets du même genre ?
Alors, peut-être qu'il y aura une autre version où on ajoutera encore plus d'espèces. On nous demande déjà, mais celle-ci, elle n'est pas dans l'appli, etc. Donc, pourquoi pas une version 2 dans 2 ans ? Et puis, on aimerait bien aussi peaufiner cette version avec des sons. Des sons d'animaux marins, ça fait partie des améliorations prévues, ainsi aussi qu'une version pour les scolaires, hein, pour les écoles. On va aussi améliorer l'application pour qu'elle soit encore plus utilisée dans les écoles, puisqu'on a une demande.
De très très beaux projets. Merci Sophie Houbart, coordinatrice du projet Bernic & Click, facile à télécharger et s'utilise hors connexion, c'est magique. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
À bientôt.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Il est 5h28, bon début de matinée sur Europe 1, suivre le journal de Christophe Lamarre et la météo d'Anissa Haddadi. Et puis rendez-vous dans la cage, Congo Bader, l'affiche d'un combat de MMA avec à la clé la ceinture de champion du monde poids lourd. Combat très attendu, diffusé dans le monde entier et qui signe le retour du MMA international à Paris. C'est ce soir à l'Accor Arena, le français Cheikh Congo, pionnier du MMA tricolore, sera avec nous à 5h45.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Anissa Haddadi, avec son t-shirt de Wonder Woman qui amène forcément des bonnes nouvelles.
Bah oui,
la sauveuse de la météo. Du mieux donc pour vendredi.
Je n'y suis pour rien, je ne suis que la messagère, vous le savez tous les jours.
Mais on est content parce que vous savez, quand le messager a une mauvaise nouvelle, c'est sur lui qu'on tire.
C'est vrai.
Donc, du mieux.
Du mieux, vous le disiez Fanny, avec un soleil qui sera bien plus présent aujourd'hui et dès le lever du jour presque partout. On a encore quelques zones nuageuses, hein, au bord de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône, le long des Alpes, en Corse, sur les Pyrénées, Pyrénées. Là, c'est très gris, avec d'ailleurs sur la Corse pas mal d'averses encore ce matin. Attention dans le nord aussi, sur la Normandie, la Bretagne, le centre-Val de Loire et la région parisienne. On a pas mal de brouillards qui peuvent gêner la circulation. Et puis cet après-midi, eh bien, ça va s'éclaircir. Le soleil va prendre de plus en plus de place. Ça reste nuageux au bord de la Méditerranée dans la région lyonnaise. Dans le nord-est, ça sera plus calme que ces derniers jours. On aura quelques passages nuageux, mais on voit quand même une amélioration qui est en train de se profiler. 5 à Rouen ce matin, 7 à Poitiers, 9 pour Paris et Le Havre, 12 à Marseille et 15 pour Perpignan. Cet après-midi, on aura 16 à 25 degrés et on va comme ça aller vers la chaleur à partir de lundi.
Eh bien, merci Anissa, les bonnes nouvelles. Bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est l'heure de votre journal.
Europe 1.
À la une de ce vendredi, les socialistes disent oui aux insoumis. Le Conseil national du PS valide l'accord avec la France insoumise. Après les communistes et les écologistes, le Parti socialiste rejoint donc à son tour la bannière de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. L'Union de la gauche est donc en marche. En matière économique, son programme promet une rupture avec la renationalisation des grandes entreprises. Est-ce possible ? Explication dans ce journal. Et puis la 15e édition de Tous à l'Opéra, les plus grandes salles de France ouvrent leurs portes à partir d'aujourd'hui. Tout le week-end, l'occasion de découvrir les coulisses et de percer le secret des compagnies lyriques.
Europe Matin,
Fanny Marceau.
Et le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. 167 voix pour, 101 contre. Le Conseil national du Parti socialiste valide à une large majorité le rapprochement avec la France insoumise. Le PS rejoint donc les Verts et le Parti communiste au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. La guerre entre partisans et opposants à une alliance avec Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu lieu hier soir. Le premier secrétaire Olivier Faure s'est dit satisfait de ce dénouement.
Je suis très heureux de ce qui vient de se passer. C'était un vote difficile qui a demandé beaucoup de sacrifices parce qu'il y a beaucoup de candidats et de candidates qui avaient prévu de partir en campagne et qui se rallieront maintenant à cette bannière commune qui est celle de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et ce que nous allons porter ensemble, c'est l'idée d'une autre façon de faire. Le slogan qui était celui, je crois, de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, qui devait être « Un autre monde est possible », c'est aussi le nôtre. Nous avons aussi la conviction que toutes les grandes transitions doivent s'opérer maintenant, qu'il n'y a plus de temps à perdre.
Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, à l'issue du Conseil national du PS cette nuit. Il était au micro d'Alexis de La Fontaine. Les candidats seront désignés officiellement demain à l'occasion de la convention d'investiture de l'Union de la gauche.
Les socialistes obtiennent 70 circonscriptions, mais l'accord promet aussi un changement de paradigme sur le plan économique. Il est notamment question du retour des nationalisations.
La gauche l'avait fait en 1981 à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Jean-Luc Mélenchon promet de renationaliser certains secteurs clés de l'économie. L'État reprendrait ainsi le contrôle total de certains secteurs comme les aéroports et les autoroutes. Il redeviendrait majoritaire dans les entreprises comme Engie et EDF. Est-ce possible et souhaitable ? On fait le point avec vous, Maud Descamps.
Eh bien, si l'on prend l'exemple d'Engie, l'État devrait débourser environ 20 milliards d'euros. S'agissant des autoroutes déjà détenues par l'État, le chèque monterait tout de même à 45 milliards d'euros pour racheter les contrats d'exploitation accordés aux sociétés privées comme Vinci ou AP2R. Et puis, il y a aussi les banques qui pourraient être concernées par cette vague de nationalisation. Pour l'économiste Sylvain Bersinger, l'histoire montre que ça n'a pas toujours été un succès.
L'idée de ceux qui défendent la nationalisation des banques, c'est de dire que l'État gérera les banques de manière plus prudente et évitera des crises et des excès, par exemple, comme on en avait vécu au moment de la crise des subprimes. Mais c'est un argument qui est contestable, puisqu'on a par le passé des exemples de banques nationalisées. On peut penser au Crédit Lyonnais avec sa grave crise au début des années 90, ou à Dexia en 2008, et qui pourtant avait été mal géré, et c'est des banques qui avaient fait faillite.
Et pour les experts, il semble difficile de savoir si une entreprise qui tomberait dans le giron de l'État serait mieux gérée ou plus performante. L'État peut en effet considérer que même si l'entreprise est déficitaire, elle remplit tout de même tous ses objectifs sociaux ou encore de services publics.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
5h33 sur Europe 1, c'est l'une des conséquences de la crise sanitaire et des confinements successifs. La santé mentale des adolescents s'est considérablement dégradée.
Plusieurs médecins et psychiatres avaient sonné l'alarme lors du premier confinement. Entre repli sur soi, déprime et conduite addictive, la jeunesse est en souffrance. Les tentatives de suicide sont en très nette augmentation. Les chiffres publiés par Santé publique France sont très inquiétants. Yasmine Akatou.
Les jeunes sont en difficulté, on a même parlé d'épidémie de solitude.
C'est l'appel du docteur Baucher dans son unité de prévention du suicide des jeunes.
La pandémie a mis le projecteur sur la santé mentale des jeunes, totalement oubliée, niée ou minimisée, en disant « les jeunes, de toute façon, ça passera toujours ».
Cette chef du service de psychiatrie veut maintenant des moyens pour son équipe, où notamment la psychiatre Lucie Gaïdra doit restreindre l'âge limite de la prise en charge à 20 ans au lieu de 25. Faute de place.
Ce serait nécessaire qu'on ait plus de place. C'est ça qui est vraiment compliqué, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de demandes et que nous, on a beau faire tout ce qu'on peut, on ne peut pas forcément répondre toujours dans ce moment de la crise. Or, c'est dans ce moment de la crise-là qu'on travaille le mieux, parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent.
Ces praticiens ou encore le psychologue Guillaume Pinault s'alerte qu'en France, seul un quart des jeunes en détresse soient pris en charge.
C'est d'entendre que ça va pas bien et qu'il y a des choses qui sont possibles. Il faut rappeler avant tout que dans la crise suicidaire, l'une des grandes difficultés, c'est le sentiment de solitude. Donc la mise en place des soins qu'on est en train d'organiser, c'est aussi de briser ce sentiment de solitude et ce sentiment aussi d'invisibilité.
Ici, un jeune de 15 à 20 ans est hospitalisé chaque jour. Nantes, Sandrine Prioul, Europe 1.
En Ukraine, l'ONU envoie un nouveau convoi pour évacuer les civils de l'usine Azovstal.
Il devrait arriver dans la journée. 200 civils sont toujours bloqués à l'intérieur de l'usine. L'armée ukrainienne accuse les Russes d'empêcher leur évacuation faute de respecter le cessez-le-feu à Mariupol. L'Ukraine qui lance un appel aux dons pour financer la guerre et reconstruire le pays. Les Occidentaux n'ont pas attendu ce signal. Ils ont déjà réuni plus de 6 milliards de dollars lors de la conférence des donateurs de Varsovie. La France promet 300 millions de dollars supplémentaires.
On en vient maintenant à cette étude sur l'impact des pesticides sur notre environnement, il est bien plus important qu'on ne l'imagine.
Une cinquantaine de scientifiques de l'INRAE et de l'IFREMER planchent sur le sujet depuis 2 ans. Un constat, en forêt, à la campagne ou à la mer, notre environnement est pollué par les pesticides, phénomène qui touche aussi la biodiversité des insectes aux animaux. Explication Louise Salé.
Du fond de la mer Méditerranée aux plus petits affluents de la Vienne, des côtes normandes aux glaciers du Mont Blanc, les pesticides sont partout. Ils ne visent à l'origine que des insectes, mais contaminent au final toute la chaîne alimentaire. La chercheuse Sophie Lénart a coordonné l'étude.
On découvre de plus en plus d'effets sur des espèces éloignées des insectes, comme les oiseaux. On a parlé de la perturbation des facultés d'orientation des oiseaux, qu'on retrouve aussi sur les abeilles, des difficultés de retour à la ruche, par exemple, et des effets indirects sur la ressource alimentaire pour les oiseaux. Et donc, un déclin des populations d'oiseaux en conséquence de ces effets.
Tout cela menace d'extinction 10 à 15% des oiseaux. Les grenouilles, elles, ont des difficultés à se reproduire. Et côté mer, c'est même le système immunitaire des dauphins et des huîtres qui est affaibli. Les scientifiques regrettent que la réglementation ignore ces constats de la recherche.
Chaque nouveau travail de recherche nous donne un aperçu de contamination qu'on n'avait pas anticipé auparavant. C'est des éléments qui sont mal couverts par les évaluations réglementaires.
D'ici le une autre étude paraîtra sur les solutions agricoles pour se passer des pesticides.
Louise Salé, spécialiste environnement d'Europe 1.
Je ne sais pas vous, mais j'irai bien à l'Opéra. Les plus grandes salles de France ouvrent leurs portes gratuitement à partir d'aujourd'hui et tout le week-end.
C'est la 15e édition de Tous à l'Opéra. Le grand public pourra découvrir les coulisses d'un monde trop peu connu, l'occasion de rencontrer les chanteurs, les musiciens, mais pas seulement. Un thème est à l'honneur cette année, les ateliers, fabriquer, entretenir et réparer un violoncelle. Eh bien, c'est tout un art. Reportage Laure d'Autriche.
Entrer dans le milieu feutré de l'opéra, traverser la scène, découvrir les coulisses, l'envers du décor, pour voir comment se fabriquent les instruments de musique et les costumes à Montpellier, à Bordeaux, Caen, Dijon ou ailleurs en France. Chaque opéra propose des activités, détaille Frédéric Perrouchine, le directeur de la Réunion des opéras de France.
Il y aura aussi des instrumentistes qui parleront du rapport avec leur instrument et du rapport qu'ils ont avec les personnes qui s'occupent de leur instrument. Vous allez avoir des escape games, vous allez avoir des répétitions ouvertes, des classes de danse ouvertes, des ateliers sur les différents métiers. Il y a même un atelier sur la bijouterie à l'Opéra de Lyon. L'opéra, c'est un monde, mais c'est le monde dans lequel on vit. C'est pas un monde différent. Donc c'est un monde qui a les portes grandes ouvertes et il faut y aller comme on a envie d'y aller et on est toujours bien accueilli.
Le public qui va à l'opéra grandit ces dernières années. En 2019, avant l'épidémie de coronavirus, les opéras en France ont accueilli 2 millions de spectateurs.
Laure d'Autriche, Tous à l'opéra, c'est donc à partir d'aujourd'hui et tout ce week-end. Et puis le football, ben là, il n'y a pas eu vraiment d'opéra. Pas de finale d'Europa League de conférence pour Marseille. Match nul hier soir 0-0 face au Feyenoord Rotterdam. Les Néerlandais retrouveront l'AS Rome en finale le 25 mai.
Merci Christophe Lamarre pour le journal. Tout de suite, les courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny, c'est en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet qui réunira 16 partants sur la distance de 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart et priorité aux chevaux s'élançant en première ligne avec les numéros 1 Flash Gordon, titulaire de 2 victoires et 2 secondes places lors de ses 4 dernières courses, 3 Izzy Mazza, à qui on ne peut rien reprocher et nanti d'un excellent numéro derrière l'autostart, 5 Glorani de Noé, certes absente depuis plus de 3 mois, mais que je sais déjà très prête le matin à l'entraînement, et 2 Foxtrot Noblesse, bon finisseur, sous réserve qu'il puisse bénéficier d'un parcours fluide, ce qui n'a pas forcément été le cas en dernier lieu sur l'hippodrome de Laval. Ensuite, je vous recommande les numéros 11 Glamour Queen, 10 Forback, 6 Gala de Manche et 14 Armour As, ces 4-là ayant assurément des arguments à faire valoir pour conclure dans les 5 premiers. Mon pronostic, As 3, 5, 2, 11, 10, 6 et 14.
Merci Thierry Léger, pronostic à retrouver dès maintenant sur Europe 1.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu
de... C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. C'est un peu la DeLorean d'Europe 1. Le jour où notre machine a remonté le temps, il y a 28 ans, le 6 mai 1994, était inauguré le tunnel sous la Manche par le président François Mitterrand et la reine Elisabeth II. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Alors de part et d'autre du Channel, le tunnel sous la Manche devient la plus longue galerie sous-marine au monde.
Oui, un tunnel de 50 km, dont 38 km percés sous la mer, 35 minutes de trajet pour des voitures embarquées sur des navettes et le TGV Eurostar qui relie Paris à Londres en 3 heures.
On badine agréablement, on ne sent rien, on ne voit même pas le temps passer. Nous voilà en Angleterre. Elisabeth II et François Mitterrand manient tout de l'humour avec brio. Pour un peu, on aurait presque l'impression que les Anglais et les Français ont toujours été les meilleurs amis du monde.
À l'époque, on compare l'Eurostar et l'avion à la gare du Nord. Reportage pour Europe 1 de Jean-Michel Salvatore.
Comme pour l'avion, il y a aussi des portiques de détection pour les bagages, contrôlés par la police de l'air et des frontières. Et puis comme dans l'avion, il y a des hôtesses, des stewards, habillés dans les jaunes et bleus. Seule différence, les animaux sont autorisés, à condition côté anglais, de rester 6 mois en quarantaine.
Les premiers passagers montent à bord 6 mois plus tard. Le billet de train aller-retour coûte 790 francs, l'équivalent de 170 euros. Et en première classe, 1600 francs, 350 euros.
Vu mon grand âge, je croyais jamais le prendre.
Pourquoi, quel âge avez-vous sur la station ?
74 ans. Je vois les progrès qui sont faits en l'espace de 30 ans de temps, c'est tout de même formidable.
Tous les enfants sont venus. Quel âge as-tu ?
7 ans.
Et à l'origine, cette liaison à grande vitesse doit aussi rallier Amsterdam et Cologne.
Avec le tunnel sous la Manche, il y a le pari aussi que ça va dynamiser certaines villes.
Oui, par exemple, la ville de Lille, où une nouvelle gare est inaugurée en 1994, prend une autre dimension, dit le président François Mitterrand dans son discours d'inauguration.
Avec le tunnel sous la Manche, cette ville et cette région peuvent être demain ce qu'elles furent hier, et plus et beaucoup plus encore, le grand carrefour des échanges de l'Europe.
Et au début des années 80, le Premier ministre Pierre Mauroy disait avoir convaincu Margaret Thatcher, Premier ministre du Royaume-Uni, pour construire ce tunnel.
J'ai tiré le premier. Je dis à Mme Thatcher, voilà, il faut faire le tunnel sous la Manche. Elle m'a dit, pourquoi un tunnel ? Moi, finalement, j'aimerais bien prendre ma voiture et aller de Londres à Marseille sans feu rouge. Bon, c'est un pont, mais un pont, ça coûte plus cher encore.
Margaret Thatcher lui a dit qu'elle ne mettrait pas un sou britannique là-dedans. Pierre Mauroy répond que les banques sont capables de rassembler les moyens pour construire le tunnel. Et voilà le projet lancé.
Merci Laure pour ce jour où. Rendez-vous lundi pour une nouvelle chronique. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on entre dans la cage de MMA pour un combat qui promet du spectacle Congo versus Bader. A tout de suite.
Fanny Marceau, votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h43 sur Europe 1. Bon réveil à toutes et à tous. 10 000 spectateurs, des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Ce soir, le MMA international revient en France. Soirée mythique en vue à l'Accor Arena. Au menu, une dizaine de combats avec les meilleurs compétiteurs français. Et en tête d'affiche, le grand Cheikh Congo avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va et vous ?
Ça va très très bien. Donc moi je suis arrivé dimanche matin et ça arrive depuis... Bon, il y a eu des petits problèmes de jet lag, mais ça a été.
Bon, on espère que vous serez prêt pour ce soir. On rappelle quand même que vous êtes l'un des pionniers en France du MMA, discipline qui regroupe différents arts martiaux. Ce combat organisé par Bellator, c'est un grand moment pour les passionnés d'MMA. D'abord pour votre choc face au champion du monde poids lourd Ryan Bader, on y revient dans un instant, mais aussi parce qu'il signe le retour du MMA international à Paris. C'est important ça pour vous ?
Important pour moi, bon, c'est vrai que je vois ça d'un autre œil, mais c'est vrai que pour les aficionados de la discipline, c'est vraiment un moment très attendu.
Et vous, vous le voyez comment ?
Moi, je le vois comme une magnifique perspective. Donc, boxer à domicile, c'est inespéré. De partager des impressions et des bonnes vibes avec le public français, c'est le top. Après, je pourrais dire autre chose, mais moi, j'ai pas les mots qui me... Par contre, j'ai les mots qui me manquent. Voilà,
on sent l'émotion.
Partager l'anglophone et le français, j'en perds mes mots. Voilà.
Vous serez donc face à l'Américain Ryan Bader, champion du monde poids lourd, que vous avez défié en janvier dernier. Comment vous appréhendez ce combat-là ?
Franchement, je l'appréhende comme il se doit, comme tout autre combat. Après, c'est vrai que je fais littéralement abstraction de l'enjeu du titre mondial. Parce que pour moi, comme tout combat, je les aborde comme des combats de compétition. Donc bien sûr, où il veut être présent pour pouvoir se hisser au top du classement. Et voilà, donc j'essaie de le faire sans pression. Voilà, sans pression, mais avec toute la détermination possible pour pouvoir amener vers moi une victoire qui sera amplement célébrée avec le public.
Ryan Bader a 38 ans, c'est 8 ans de moins que vous. Est-ce que ça peut faire la différence ?
Ça pourrait faire la différence en termes de, je dirais, de dissuasion, ne serait-ce qu'en termes de vivacité, ne serait-ce que pour l'âge. Mais après, selon les qualités physiques que j'ai pu mettre à mal jusqu'à maintenant pour pouvoir maintenir mon classement mondial, non, je pense pas.
Vous êtes toujours au top.
Voilà.
Vous étiez déjà affronté avec Ryan Bader en 2019. Et vous dénonciez à l'époque, je l'ai retrouvé sur votre fil Twitter, le racisme des fans de Bader et vous le traitiez de champion en carton. Est-ce que vous vous détestez vraiment ? Est-ce qu'il y a une vraie animosité ou est-ce que ça fait partie du show ?
Non, finalement, je dirais que je suis pas dans la fioritude à vouloir créer une sorte d'animosité. C'est vrai que cette colère est venue lorsqu'il avait pu être irrégulier sur le combat en me mettant les doigts dans l'œil. Et donc, du coup, effectivement, lorsqu'on rencontre un champion qui est censé se battre fair play en mettant en avant toutes ses qualités physiques, et de là, qu'il triche de la sorte pour pouvoir gagner ce combat-là, c'est plus que frustrant. Voilà.
Et aujourd'hui, vous craignez ce genre d'attaque irrégulière ? Est-ce que vous craignez dans ce match qu'il y ait de nouveau des attaques racistes des supporters de Bader, de nouveau des irrégularités dans son comportement dans la cage ?
Quoi qu'il en soit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc après, bien sûr, et fort heureusement, on a quand même un arbitrage qui est là, qui, j'espère, fera son travail jusqu'au bout et non ira à l'avantage de Bader. Donc s'il devait agir de la sorte, sera sanctionné. Mais après, maintenant, c'est le quotidien. Je dirais le quotidien, malgré ça, qu'il soit aux États-Unis, en France, dans le monde, malheureusement, la bêtise humaine n'a pas de limite.
Ce week-end, après ce combat, vous assurez 2 jours de stage à Paris, c'est ça ? Vous êtes toujours très impliqué dans le développement du MMA en France.
On essaie d'apporter les bonnes notes, justement, parce que c'est vrai que dans l'ensemble, aujourd'hui, le sport s'est largement démocratisé comme il se devait. Mais il manquait des petites directives, justement, que beaucoup ont oubliées et ne sont pas surtout familiers par ce style d'approche. Donc l'idée c'était de rappeler ces petites lacunes pour pouvoir mettre tout le monde dans le bon bain et puis surtout aussi renouer avec le public et puis partager des émotions sur lesquelles il n'avait pas l'occasion de le faire depuis la venue du Covid. Voilà.
Effectivement, le MMA aujourd'hui en France, c'est plus de 50 000 pratiquants, 700 éducateurs spécialisés, le tout coordonné par la Fédération française de boxe. Vous avez des champions, alors il y a vous bien sûr pour Bellator, il y a Cyril Gane aussi pour l'UFC, vous suivez un petit peu son parcours ?
Oui, je suis ça comme il se doit, et puis bien sûr on ne peut pas passer inaperçu. Et malheureusement, son combat s'est soldé par une défaite, mais je pense bien qu'il reviendra en corrigeant les petits détails qui l'ont amené à fauter sur le chemin. Et puis, bon, quoi qu'il en soit, il y a le beau étendard. Donc, il n'y a pas à rougir.
Il reste un combat à remporter pour le MMA, c'est son entrée aux Jeux Olympiques. J'imagine que ça vous tient à cœur, ça aussi?
Bah, aux Jeux Olympiques, ça me tient à cœur, mais bon, fort heureusement, je verrai ça d'un autre regard, parce que je serai posé à ce moment-là comme téléspectateur, j'espère, ou spectateur, ou coach. Et donc, ce sera plus qu'agréable. Voilà.
Mais forcément, quand on aime une discipline, on a envie de la porter au plus haut. Et si vous aviez un message ce matin pour ceux qui nous écoutent, qui eux aussi ont embrassé ce sport, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a derrière chaque art martial, il y a quand même une philosophie, il y a quelque chose de l'ordre de la détermination, de la motivation, de se dépasser soi-même comme dans tout sport. Quel message vous voudriez donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui, par exemple, auraient envie de se lancer dans le MMA?
Ben, je dirais que tout est possible dans la vie à qui sait s'en donner les moyens. Bien sûr, c'est, comme toute chose, c'est un long cheminement. Bon, on peut y trouver des raccourcis, mais à condition de bien faire le travail, tout simplement. Et de se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Voilà.
Merci beaucoup, Cheikh Kongo, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Votre combat face au champion du monde des poids lourds, Ryan Bader, c'est ce soir à l'Accor Arena à Paris. Vous aurez sans doute le titre. On y croit, nous. En tout cas, on a envie d'être chauvin et de dire qu'on est avec vous.
Merci infiniment pour le petit support. Merci beaucoup.
Bonne journée à vous et bon combat ce soir.
Europe Matin. Fanny Marceau.
5h50 sur Europe 1, bien informé ce matin avec le journal permanent d'Alban Le Prince.
Et un autre combat, mais celui-ci, il est politique. Hein. Après 4 heures de débat, parfois houleux, c'est fait. Le PS rejoint l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives. Les socialistes ont voté pour à 62% au Conseil national hier soir. Dans la Macronie, La République en marche devient Renaissance, nouveau nom du parti qui dévoile la liste des 183 premières investitures de la majorité présidentielle. Elisabeth Borne, candidate dans le Calvados, Jean-Michel Blanquer dans le Loiret ou encore Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine. Buitoni, à nouveau dans le viseur pour des soupçons de pizza contaminée à la bactérie Escherichia coli. Deux nouvelles gammes sont concernées, Bella Napoli et Four à Pierre. La rage de l'OM, Marseille tombe aux portes de la finale de la Ligue Europa Conférence après un match nul 0 partout contre le Feyenoord. A noter 4 interpellations hier soir en marge de la rencontre, 3 néerlandais, 1 marseillais.
Europe 1. On est vendredi, c'est place à la musique ce matin pour la chronique de Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous, bonjour Fanny.
Alors ce matin, vous nous parlez du 18e, c'est pas rien, 18e album studio de l'un des chanteurs préférés des Français, je parle bien de Renaud.
Renaud est de retour avec un nouvel album intitulé Métèque, un titre choisi pour rendre hommage à Georges Moustaki, dans ce qui est en fait une compilation de reprises de Jean Ferrat, Jacques Higelin, Yves Montand ou encore Georges Brassens, dont il avait déjà repris les chansons en 1996. Un premier titre de cet album avait déjà été publié, une reprise d'une chanson assez peu connue de Serge Reggiani, Si tu me payes un verre.
Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie, ou si tu n'en as pas, si tu traînes tout seul, avec un cœur en panne.
Un choix non dénué d'ironie pour le chanteur qui n'a jamais caché son alcoolisme. Il aurait d'ailleurs cessé de boire et ralenti sa consommation de cigarettes. De quoi se sentir mieux dans sa couenne, pour employer ses mots. Avec cet album, Renaud souhaite rendre hommage à ceux qui, à l'instar de Georges Moustaki, lui ont donné envie de chanter.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Dans ce répertoire, Renaud a choisi de mélanger des titres connus et des pépites délaissées, un album enregistré avec son copain Thierry Geoffroy dans le sud de la France. Pour les arrangements, Renaud s'est tourné vers Michel Curiot, arrangeur pour Alain Souchon, Laurent Voulzy, Louis Chédid, Michel Jonas, un génie du domaine. Il y a apporté de nouvelles couleurs à des titres comme Je suis mort, qui dit mieux de Jacques Higelin.
Je suis mort, qui dit mieux Ah mon pauvre vieux, voilà autre chose. Je suis mort, qui dit mieux? Mort le venin, coupé la rose. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, ça m'aide aux choses.
Les Français ont un attachement particulier à Renaud, le titi parisien du 14e arrondissement avec sa gouaille. Le personnage fragile qui a connu un immense succès dans les années 80 et 90. 26 albums, 20 millions de disques vendus. Sa toute première chanson, c'est Hexagone, publiée sur son premier album, Amoureux de Paname, en 1975.
Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand.
Le succès sera vite là pour Renaud. Il y aura Laisse Béton, Marche à l'ombre, Mistral gagnant, puis plus tard Morgane de Toi ou Manhattan Kaboul avec Axel Red. Et puis en 2016, sa chanson au titre évocateur, Toujours debout.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica.
Merci Stéphanie. Métèque, le nouvel album de Renaud, disponible depuis ce matin. Renaud qui aura déjà 70 ans le 11 mai, mercredi prochain. Le temps passe hein, et les gens qui changent, ça va, ça vient. Renaud sur Europe 1.
Europe Matin, Fanny Marceau.
Il est 5h58, dans un instant la météo d'Anissa Haddadi, le journal de Romain Noquet. Et de quoi nous couper l'appétit? Une pizza Buitoni, un steak de chez Castel, des chocolats Kinder, menu risqué entre salmonelle et Escherichia coli qui jette l'opprobre sur toute l'industrie alimentaire. Alors faut-il changer nos habitudes de consommation? Comment mieux assurer notre sécurité alimentaire? On en parle à 6h10 avec Rodolphe Bonas, il est expert en consommation. Et juste après, la partition d'Omblin avec celle qui a démocratisé la musique country dans le monde. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. La partition de Sheryl Crow, c'est dans 20 minutes.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
C'est notre Sheryl Crow à nous, vous auriez dû l'entendre chanter il y a quelques instants. Bon, Anissa Haddadi, on a encore quelques nuages qui traînent.
Oui, ce matin, le long des Alpes jusqu'en Corse, le long des Pyrénées, on a un ciel bien gris avec des averses pour vous encore, malheureusement pour vous, mais heureusement pour la Terre, parce que cette eau, on en a besoin, surtout dans le sud. On a des orages même hein, sur l'ouest de la Corse ce matin. En Auvergne-Rhône-Alpes, là, le temps est sec, mais c'est encore nuageux pour ce début de journée. Attention si vous êtes sur la route, là d'ailleurs on a un message de Philippe du côté d'Évreux qui nous dit que c'est un peu compliqué ce matin, que les brouillards sont épais, il y a beaucoup de nuages bas, donc effectivement beaucoup de brouillards tout le long des côtes de la Manche, Bretagne, Normandie, ça arrive jusque sur la région parisienne et puis dans le Val-de-Saône également. Sur le nord de la Bretagne et le Cotentin, les nuages bas vont rester accrochés toute la journée. Mais cet après-midi, en fait, on va avoir un temps plus ensoleillé, plus lumineux sur les deux tiers nord de la France. Et puis, entre les Pyrénées et les Alpes, ça reste encore très nuageux. 4 à Nevers ce matin, 8 à Brest et Metz, 9 pour Paris, 11 à Lyon, 12 à Marseille, 15 à Perpignan, c'est 12 ce matin. Cet après-midi, ça commence à grimper. 16 au Havre, 19 à Dunkerque, 23 à Paris, 24 à Marseille.
Merci Anissa. Vous écoutez Europe 1. Très très bon début de journée à tous. Nous sommes le jeudi 5 mai et il est 6h. Heure de débat, sans éclat de voix, le Parti Socialiste adopte l'accord avec la France Insoumise. Soirée de défaite pour les ténors socialistes opposés à cette alliance. Eux préparent déjà la suite. Le scandale Buitoni prend de l'ampleur. De nouvelles plaintes visent le fabricant de pizza. Après les Fresh Up, deux autres gammes de produits pourraient être contaminées. Et puis à Marseille, la vie ne sera plus aussi belle. La série historique Plus belle la vie, c'est fini. France Télévisions l'a annoncé. Tristesse et nostalgie sur le Vieux-Port.
Europe Matin.
Fanny Marceau.
Le journal de 6 heures présenté par Roman Hoquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Vous l'ignorez sans doute Fanny, mais aujourd'hui c'est la Saint-Prudence et chez les socialistes justement, il va falloir en jouer de cette prudence, car la grogne est là même après l'accord adopté hier soir. Une alliance avec les Insoumis validée par 62% des socialistes réunis en Conseil national. Un changement d'orientation historique avec comme un goût amer pour Patrick Mennucci, le cadre marseillais farouche opposant à ce mariage avec la France Insoumise.
Nous aimons le Parti Socialiste. Nous sommes attachés à lui et nous ne voulons pas en rajouter. Je pense que les électeurs, malheureusement, se rendront compte rapidement de ce qui est en train de se passer. Mais ce soir, je crois que nous avons mené une bataille, nous l'avons perdue et nous n'avons pas l'intention d'abandonner le Parti Socialiste. Nous y restons pour le faire changer et nous comptons bien. Après cette période, il y aura un congrès et c'est là où nous essaierons de reprendre la main parce que nous pensons que le Parti Socialiste doit être un parti de gouvernement et pas un parti qui suit la radicalité à tout gré.
L'ancien député socialiste Patrick Mennucci au micro d'Alexis de La Fontaine. La convention d'investiture de la nouvelle alliance est prévue ce samedi à Aubervilliers.
Deux investitures le même jour, celle aussi d'Emmanuel Macron, cérémonie organisée dans la salle des fêtes de l'Élysée. Émission spéciale dès 10h sur Europe 1.
Emmanuel Macron qui a aussi mis sa majorité en marche avec un ménage à trois pour les législatives. Le Modem, Horizon et La République en marche. L'accord a été signé hier. Le parti présidentiel qui, pour l'occasion, fait peau neuve avec un nouveau nom, Renaissance.
Il est 6h02 sur Europe 1. Un cœur grand comme l'Italie, dit le slogan Buitoni, rien n'est moins sûr. La marque est empêtrée dans un scandale de contamination à la bactérie Escherichia coli.
Après les fresh-up, le soupçon pèse désormais sur les Bella Napoli et les fours à pierre. Deux gammes visées par de nouvelles plaintes après des cas d'intoxication. On fait le point avec Guillaume Dominguez.
Premier témoignage, celui d'une mère de famille de 34 ans. Elle affirme avoir mangé en mars dernier une pizza surgelée Buitoni de la gamme Bella Napoli. Le soir même, selon ses dires, elle a été hospitalisée pour une semaine contaminée par la bactérie Escherichia coli. Pour les médecins, la pizza pourrait être à l'origine de l'intoxication. Ce mercredi, son avocat a déposé plainte pour blessures involontaires contre la marque du groupe Nestlé. Second témoignage, hier, une autre mère de famille a annoncé vouloir déposer plainte à son tour. Selon elle, sa petite-fille de 7 ans a aussi été hospitalisée après avoir mangé une pizza Buitoni, mais cette fois-ci de la gamme four à pierre. Là encore, le lien entre l'intoxication et la pizza serait plus que probable, selon maître Richard Legrand, avocat de la famille.
Il y a quand même eu une prise de contact de la marque auprès de ma cliente pour obtenir certaines informations, notamment d'un point de vue médical. Et puis bon, après, voilà, on a quand même des symptômes développés après la consommation de ce produit. La bactérie correspond à l'affaire. Il y a quand même pas mal d'éléments qui corroborent.
Et selon Maître Legrand, il est possible que la pizza four à pierre ait été produite dans l'usine de Caudry dans le nord de la France avant sa fermeture en avril. Usine qui a produit la gamme de pizza Fresh Up.
Guillaume Dominguez, une sortie scolaire et un drame hier en Isère. Une guide spéléologue est décédée dans une grotte piégée par une soudaine montée des eaux. Elle encadrait une classe de collégiens. Eux ont été rapidement évacué. Aucun élève n'a été blessé.
Il est 6h04. Plus de 6 milliards d'euros de dons, c'est la somme récoltée hier pour l'Ukraine lors d'une conférence internationale de donateurs en Pologne.
Et la France met aussi la main à la poche avec 300 millions supplémentaires. Un apport qui ne concerne pas le volet militaire. En parallèle, le président ukrainien Zelensky a lancé sa propre cagnotte en ligne pour reconstruire le pays ravagé par les bombardements. Un symbole, bien sûr, Mariupol, où le cessez-le-feu promis par les Russes ne serait pas respecté selon Kiev.
La guerre en Ukraine est forcément la hausse du prix des carburants qui a fait grimper le prix de nos billets d'avion.
Et ça, vous en êtes rendu compte si vous avez préparé vos vacances d'été. Eh bien, cette hausse, ça, c'est sur le court terme. Parce que si l'on prend une autre échelle sur 10 ans, eh bien, les prix ont chuté. Moins 20% pour un Paris-New York, Paris-Lisbonne, moins 50% pour aller à Londres. Je vous fais sûrement rêver,
un petit peu,
Fanny.
Ouais.
Des prix en baisse pour la plupart des destinations prisées par les Français. C'est le constat du comparateur en ligne Liligo. L'explication, c'est la concurrence féroce entre les compagnies low cost depuis 10 ans, pour le plus grand plaisir des voyageurs rencontrés par Caroline Baudry.
Je vais à Montréal, 354 euros.
Un aller-retour avec Air France à prix cassé. Sourit Angela qui entre dans l'aéroport, valise à la main. Le prix du billet vers la ville canadienne a chuté de 21% depuis 2010. Grégory travaille dans la musique. Il a commencé à s'y rendre régulièrement il y a 6 ans.
Ah, c'était plus cher que ça. C'était au moins 600 euros minimum. Il était temps qu'on baisse les prix des billets. On part avec un prix très bas.
parce qu'il y a beaucoup d'options, ça fait plaisir.
La fin du modèle all-inclusive des compagnies traditionnelles, forcées de se réinventer quand près de la moitié des vols au départ de la France sont aujourd'hui opérés par des compagnies à bas prix, explique Guillaume Rostand, le porte-parole du site de réservation, Liligo.com.
Pour pouvoir proposer des prix d'appel bas sur Internet, toutes les compagnies se sont mises à vous facturer, en plus du billet d'avion, le choix de la place, les bagages cabine et les bagages en soute, notamment, et les billets coupe-fil. C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas il y a encore peu de temps. C'est une tendance du marché.
Une baisse des prix rendue possible par des appareils moins consommateurs en carburant, dont le prix a baissé entre 2010 et 2021.
Le reportage de Caroline Baudry pour Europe 1. Et justement, Fanny, on va prendre l'avion ou même le train. Je vous emmène à Marseille.
On est vraiment rien sans elle, qu'on soit noir.
Alors les fans, eux, seront vraiment rien sans elle, pour le coup, sans la série Plus belle la vie qui s'arrête. Oui, Fanny, dernier épisode à l'automne.
On va essayer de s'en remettre.
France Télévisions l'a confirmé hier après 18 ans sur nos écrans, 4500 épisodes. Et ne mentez pas, bien sûr qu'on a tous regardé ça au moins une fois.
Au moins une fois.
Exactement. La série est passée quand même de 7 millions de téléspectateurs par soir à l'âge d'or, à 3 millions à peine ces derniers mois. Alors même les Marseillais le disent, toutes les bonnes choses ont une fin.
Ah, moi j'aime bien, je me régale tous les soirs, je le regarde en principe. Mais c'est les histoires de la région, tout ça, non, c'est bien, moi je trouve. Puis les personnages, on s'attache, c'est... Non, moi franchement, ça va me manquer quoi quand même. Ah ben, ça m'embête un peu quand même, ça fait un feuilleton à Moïse. Il y avait des fois où c'était moins bien que d'autres. Hein. Oui, ben des fois ça tournait un peu. Mais là, ces derniers temps, il y avait des histoires qui étaient intéressantes, c'était bien.
C'est trop long. Oh, ben au début, parce qu'en plus c'était sur Marseille, donc c'est vrai que c'était sympa, on voyait un peu. Mais après, là ça devenait lourd. Trop d'épisodes, oui.
Voilà, des témoignages savoureux recueillis par le correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. Alors la série emploie quand même une centaine de personnes. France Télévisions s'est engagée à investir dans d'autres séries sur Marseille. Et le maire doit justement rencontrer le groupe aujourd'hui pour en discuter.
Bon, on attend de savoir la suite. Merci beaucoup Romain Oquet pour le journal de 6h. On passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Johan Tritz nous a rejoint pour le journal des sports avec Marseille. Justement, on y reste à Marseille. Marseille qui s'arrête aux portes de la finale de la Ligue Europa Conférence.
Oui, c'est pas plus belle la vie. L'OM qui a buté en demi-finale, retour de la 3e Coupe d'Europe sur l'équipe de Feyenoord. Battu 3-2 à l'aller, les Phocéens n'ont pas réussi à faire sauter le verrou néerlandais. 1-0-0 au final qui les élimine. Une grosse déception pour le joueur Valentin Angier.
On a tout donné, on a lâché beaucoup de force sur le terrain. Malgré ça, on n'a pas réussi à marquer ce but pour aller en prolongation et ce deuxième pour se qualifier. Donc voilà, on est très très frustrés pour nous, pour le club, pour nos supporters. On avait vraiment envie d'aller jouer cette finale.
Pour le consultant football d'Europe 1, au commentaire de la rencontre Marc Libra, le tournant du match, c'est la sortie à la demi-heure de jeu du capitaine Dimitri Payet sur blessure, car derrière, il ne s'est rien passé.
On s'attendait vraiment à ce qu'il se passe quelque chose mentalement. Il s'est rien passé mentalement. Sur le terrain, ça a été difficile. Qu'on ne me parle pas du physique, parce que le physique, c'est une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est à Marseille. On sait la place de l'Europe quand on est joueur d'Olympique de Marseille. Et eux sont passés complètement à travers et c'est un petit peu dommage.
Marseille qui joue ce week-end en championnat face à Lorient.
Football toujours et le feuilleton Kylian Mbappé continue.
Oui, selon le journal Le Parisien, l'attaquant du PSG en fin de contrat dans 2 mois serait tout proche de prolonger. Un accord de principe a même été trouvé. Des informations directement démenties par la mère du joueur sur les réseaux, mais aussi dans une interview au journal espagnol Marca. Kylian Mbappé est plutôt sur un départ, dit-elle. Le suspense reste entier.
On attend la suite des épisodes. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec notre invité Cheikh Kongo, l'un des pionniers français du MMA. Tous les coups seront permis ce soir à l'Accor Hôtel Arena.
Oui, 10 000 spectateurs sont attendus ce soir dans la salle parisienne pour voir des combats de ce sport autorisé en France depuis maintenant 2 ans. L'un des plus gros organisateurs du monde, Bellator, est à l'origine de ce deuxième événement où combattra notamment Lucie Berthaud, l'une des rares françaises à pratiquer le MMA à haut niveau.
Tu fais porte-drapeau déjà en combattant dans le premier événement à Bercy l'année dernière. Ensuite, il y a eu Koh-Lanta, j'ai été la première combattante de MMA à intégrer l'aventure. Et là, aujourd'hui, effectivement, je vais être la seule femme sur la carte. Effectivement, c'est une fierté. Et si je peux inspirer des jeunes filles, eh bien, écoutez, ce sera avec plaisir.
Lucie Berthaud au micro d'Axel May.
Et aujourd'hui démarre le Tour d'Italie, l'une des plus grandes courses de cyclisme de l'année.
Oui, le premier grand tour de la saison qui partira tout à l'heure de Budapest en Hongrie avant de rejoindre la botte dans 3 jours. Le Français Romain Bardet, l'un des favoris de la compétition. On y retrouvera aussi Guillaume Martin, meilleur tricolore sur le dernier Tour de France. Et le sprinter Arnaud Démare, vainqueur de 4 étapes en 2020, arrivé le 29 mai à Vérone, dans la ville de Roméo et Juliette.
Ce sera romantique. Merci beaucoup Johan Tritz pour le sport. Restez avec nous, dans un instant on parle de nos assiettes. Comment être sûr de la qualité de ce qu'on mange? Peut-on encore faire confiance à l'agroalimentaire alors que les scandales se multiplient? Rodolphe Bonas, expert en consommation, est notre invité dans une poignée de secondes.
Fanny Marceau,
votre matinale info sur Europe 1.
Et vous, est-ce que vous vous intéressez à ce qu'il y a dans votre assiette? Il est 6h13 sur Europe 1. De la viande avariée a-t-elle été vendue à des restaurateurs? 3 responsables de l'abattoir Castel de Nantes sur le banc des accusés depuis hier. Un procès qui démarre alors que l'agroalimentaire est dans la tourmente depuis plusieurs semaines. Bonjour Rodolphe Bonas.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes expert en consommation. Alors, il y a eu les pizzas Fresh Up de Buitoni retirées de la vente après une 50aine de contaminations à la bactérie Escherichia coli. On apprend hier que d'autres pizzas de la marque sont également visées par des plaintes, les Fours à Pierre et les Bella Napoli. Il y a les chocolats Kinder et leur salmonelle. Il y a cette affaire de viande avariée. Bon, ça crée une certaine psychose. Et la question est évidente, est-ce qu'on peut encore manger en sécurité aujourd'hui?
Oui, la psychose, elle est normale. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous répondrai tout de suite, oui, on peut manger en sécurité. Et la raison pour laquelle, malheureusement, ces scandales arrivent, et c'est terrible, c'est aussi parce que il y a un dispositif et des procédures sanitaires qui sont tout à fait remarquables. Si on remonte un petit peu en arrière, c'est-à-dire qu'on a une très grande traçabilité des produits. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait pas forcément, mais ces dispositifs de retrait de produits, hein, et même de rappel de produits, c'est-à-dire c'est des mécanismes dans lesquels on demande aux commerçants d'enlever les produits de la vente ou bien on demande aux consommateurs de ramener les produits au magasin parce qu'ils sont impropres à la consommation ou il existe un risque, eh bien il faut savoir qu'il y a plus de 5000 retraits et rappels de produits en France. Ça veut dire qu'on en enlève à peu près 11 par jour. Donc là, ce qui est absolument terrible, c'est que par moment, parfois, ces dispositifs sanitaires, eh bien, le risque zéro n'existant pas, eh bien, on peut arriver à des drames, comme c'est le cas pour Escherichia coli, qui est une bactérie pathogène qui peut parfois créer des drames que l'on connaît. Mais je voudrais pas non plus qu'on bascule dans la psychose autour de la sécurité alimentaire.
Mais il y a quand même question importante, c'est que alors, avant qu'on en arrive au rappel de produits, dès le départ, dès la production, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur la façon dont on contrôle les usines de production, sur tout ce qui... Parce que l'alimentation, c'est quand même quelque chose de sérieux. Est-ce qu'on contrôle suffisamment les lignes de production en France?
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord la première responsabilité de l'excellence de l'hygiène d'une ligne de production, elle vient chez l'industriel. C'est à l'industriel de mettre en œuvre tous les dispositifs à la fois qui encadrent le dispositif de production, c'est-à-dire tous les dispositifs sanitaires, tout le système qui permet de nettoyer les lignes de production, de s'assurer que les agents sont bien équipés correctement. Et ensuite, ça appartient aussi à l'industriel de contrôler. Et enfin, il appartient aussi, dans certaines situations, au commerçant de venir contrôler son fournisseur. Et en toute fin de chaîne, c'est ce qu'on appelle la DGCCRF, hein, c'est l'autorité de régulation et de contrôle de l'État, qui, elle, peut intervenir faisant des contrôles, j'allais dire, ciblés. Pourquoi? Parce que la DGCCRF n'a pas les équipes nécessaires pour surveiller en temps réel l'ensemble des chaînes de production alimentaire en France. Ça serait pas possible, on n'y arriverait pas. Mais au départ, voilà un petit peu la gradation du contrôle. Je veux juste vous éclairer sur un chiffre parce que on a tendance à un peu à l'oublier. Il faut savoir qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en France, mouraient chaque année par intoxication alimentaire 15 000 personnes. Aujourd'hui, malheureusement, on en dénombrerait un peu moins de 500. Donc ça veut dire qu'on a énormément progressé.
Donc en fait, on a presque de la chance aujourd'hui de n'avoir qu'une cinquantaine, par exemple, de personnes malades par rapport à...
Surtout pas de la chance, si vous voulez. C'est, en fait, ce qu'il faut, c'est... Il n'y a pas de chance, c'est terrible. Ce qu'il faut, c'est continuer à investir énormément dans la traçabilité et la sécurité alimentaire des produits. C'est pas une histoire de chance. Ce que je veux dire, c'est que C'est un petit peu comme l'aviation civile, si vous voulez. Il y a de moins en moins d'avions, et heureusement, et c'est heureux qu'ils s'écrasent dans le monde. Pourquoi ? Parce que ces dispositifs industriels sont de plus en plus sûrs, et c'est le cas aussi de notre alimentation. Donc, il ne faut pas qu'on bascule dans une psychose. Il faut rester extrêmement vigilant et demander aux industriels d'être extrêmement rigoureux. Dans le cas des pizzas, il va y avoir une enquête judiciaire, une enquête pénale, qui va démontrer oui ou non la responsabilité d'industriel dans la tenue de ses mesures sanitaires sur son site de production. Et ça, c'est indispensable.
Alors, c'est le genre de scandale, en tout cas, qui jette le doute sur toute l'industrie. Parce que sur les pizzas surgelées, par exemple, puisqu'on en parle, le consommateur a vite fait de se dire que si ça peut arriver à trois gammes d'un géant comme Nestlé, qui est propriétaire de Buitoni, ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que ça peut perturber complètement le marché ?
Alors, sur le marché de la pizza, oui, je vous le confirme. C'est-à-dire la pizza surgelée, c'est un marché qui descend extrêmement bas. Souvenons-nous du scandale Findus, hein, vous vous souvenez, qui était moins grave, hein, parce qu'il s'agissait là d'histoire de viande de cheval dans la lasagne, c'était moins grave que ce qu'on vit aujourd'hui. Eh bien, il a fallu 10 ans pour que le marché retrouve les chiffres au départ.
C'est-à-dire 10 ans.
C'est une crise qui... Oui, 10 ans. Il a fallu 10 ans pour retrouver à peu près les mêmes chiffres. Pourquoi ? Parce que les consommateurs ont mis 10 ans à se réhabituer, à se redonner confiance dans ce type de produit. Là, la pizza surgelée, alors d'abord, la marque Buitoni doit être fortement impactée, mais c'est tout le secteur qui va bien sûr. Et vous savez qu'en plus, en France, nous sommes de très gros mangeurs de pizza, parce qu'on est, le deuxième pays au monde qui consomme le plus de pizza par tête d'habitant.
Et est-ce que ce genre de scandale, du coup, pousse les Français à changer leur consommation ? Est-ce qu'on va manger, de fait, moins de pizza surgelée et qu'on en fera peut-être plus nous-mêmes ?
Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr, on va manger beaucoup moins de pizza surgelée pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Je vous dis, ça va durer très 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 longtemps. C'est vrai qu'il y a une modification des habitudes alimentaires et particulièrement qui a été imposée pendant le Covid, c'est-à-dire que les Français se sont encore plus mis en cuisine. Donc on a tendance à faire de plus en plus de pizza nous-mêmes ou de plats et d'acheter un peu moins de plats préparés et de les préparer nous-mêmes. Et c'est heureux. Parce que, c'est à la fois convivial, mais surtout souvent meilleur d'acheter des produits frais.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est évident.
Le fait maison, c'est toujours meilleur. Une dernière question sur les marques distributeurs, parce que certains envisagent peut-être de se rabattre sur des marques distributeurs. Est-ce qu'elles sont, elles aussi, produites par des grands groupes, finalement ?
Alors, il existe les deux situations. Hein, c'est-à-dire que c'est assez compliqué de s'y retrouver là-dessus, même si tout est tracé. Il faut savoir que sur chaque produit que vous achetez, vous avez un code qui identifie la séquence de production de votre produit et aussi dans cette séquence de production, le code identifiant le site de production. Alors, c'est assez difficile de s'y retrouver, mais dans les marques distributeurs, vous avez des marques distributeurs qui sont opérées par des industriels totalement indépendants de ces grands groupes internationaux et puis certaines marques de distributeurs qui sont opérées par ces groupes internationaux. Et le seul moyen de s'y retrouver, c'est d'essayer d'aller confronter, si vous voulez, ces fameux numéros qui sont sur les packaging, qui est quasiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin.
On n'est pas sorti de l'auberge.
Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge pour s'y retrouver. Mais en revanche, oui, la plupart des marques distributeurs sont quand même opérées par des industriels de plus petite taille et qui sont de production française.
Non, ne cédons pas à la psychose. Le message ce matin de Rodolphe Bonnas. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes expert en consommation. Merci à vous.
Europe Matin.
Fanny Marceau.
Il est 6h21, les principaux titres de ce jeudi avec Alban Le Prince.
La guerre en Ukraine, l'armée russe ne respecte pas son cessez-le-feu annoncé tout autour de la Syrie Azovstal de Mariupol, c'est ce qu'assure Kiev. Alors que 200 civils y seraient encore coincés, un nouveau convoi humanitaire des Nations Unies doit arriver dans la matinée. En France, les socialistes disent oui à 62%. Le PS rejoint donc l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives. Décision après un vote en Conseil national hier soir, au terme de 4 heures de débat. Et puis un nouveau défi que parents et enseignants surveillent de très près sur TikTok, le Labello Challenge. Le concept, couper un bout de son stick à lèvres à chaque fois que l'adolescent vit mal un événement. Une fois qu'il n'y a plus rien à couper, l'idée est de se scarifier, voire pire, mettre fin à ses jours.
On termine avec votre partition, Omblin, ça nous fera du bien, un peu de musique. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Un documentaire qui retrace sa vie et sa carrière est diffusé dès aujourd'hui aux États-Unis. Sheryl Crow a vendu plus de 35 millions d'albums dans le monde. Avec sa veste à franges et son chapeau de cow-boy, elle véhicule encore aujourd'hui l'image de celle qui a démocratisé la musique country dans les années 90.
De la country nourrie au rock et à la pop, mais avant de devenir une figure incontournable de la musique de la fin du XXe siècle, Sheryl Crow a connu des débuts plutôt laborieux. Sheryl Crow grandit dans une famille de musiciens en plein milieu du Missouri, une mère pianiste et un père trompettiste. En toute logique, elle suit des études de musique à l'université. À peine diplômée, elle choisit l'enseignement dans un établissement de Saint-Louis. Pianiste également, guitariste, Sheryl Crow est surtout dotée d'une voix exceptionnelle. Alors le soir, elle chante dans les clubs, mais cette vie ne lui suffit pas. Sheryl Crow plie bagage, prend la route, direction Los Angeles, pour vivre uniquement de la musique.
Nous sommes en 1986 et Sheryl Crow court de casting en audition.
Animée par une envie irrépressible de percer, d'y arriver, les seuls contrats qu'elle arrive à décrocher sont des enregistrements de jingles publicitaires destinés à la radio. Elle accepte un job de serveuse aussi pour subvenir à ses besoins. Le vent finit par tourner, un contrat en or lui permet de sortir la tête de l'eau, un contrat de choriste. Pendant 2 ans, Sheryl Crow accompagne Michael Jackson sur la tournée de l'album Bad. Elle n'aura ensuite plus de problèmes pour trouver du travail. Elle chante pour Sting, Rod Stewart, Stevie Wonder. Elle commence surtout à se faire un nom dans le milieu et une démo attire l'oreille d'un producteur. Un premier album est enregistré, mais il ne voit pas le jour, trop lisse, trop parfait. À cette époque, Sheryl Crow a pris l'habitude de retrouver des amis musiciens le mardi soir pour partager quelques idées, quelques accords, quelques vers aussi. Elle s'inspire alors de ses sessions pour enregistrer un nouveau disque qu'elle nomme Tuesday Night Music Club, le club de musique du mardi soir. Avec ses chansons, elle partage son expérience nocturne dans les bars et son désir de fuite. Lorsqu'elle a quitté son Missouri natal pour se rendre en Californie, rien ne laisse présager le raz-de-marée qu'elle s'apprête à provoquer. Extrait de son album Tuesday Night Music Club, Sheryl Crow en 1993 avec All I Wanna Do. Elle sera récompensée 2 ans plus tard par 3 Grammy Awards aux États-Unis. Le documentaire Sheryl est diffusé dès aujourd'hui aux États-Unis sur la chaîne Showtime et retrouvé dans les bacs en France. La bande originale de ce film avec ses plus grands succès, 35 chansons couvrant plus de 30 ans de carrière.
La partition d'Omblin Roche. Merci Omblin.
Europe Matin.
Omblin qui revient lundi avec Julien Pierce dès 5h pour vous réveiller sur Europe 1. Et oui, fini les vacances. En attendant, il est 6h et exactement 27 minutes. Je vous dis à bientôt. Bonne matinée et place à Pierre de Villeneuve. Oui.